Chapitre 104. Charcot se retrouva dans la chambre au fond du mobil-home. Personne n'avait touché à rien. La grande carte de Paris était punaisée sur un panneau de liège juste en face de lui. À côté, il y avait le symbole des trois cercles dessiné sur une feuille collée sur la cloison. Mûrier avait tracé des points sur les cercles comme des planètes en orbite sur un système solaire macabre. Beaucoup de points sur le cercle le plus extérieur, moins sur le deuxième, un seul sur le premier. L'homme en noir, le maître de cet univers de folie et de mort, capable de traverser les lieux et les époques. L'œil de Charcot fut attiré par des coordonnées notées au crayon de bois dans le coin inférieur droit du plan de Paris. Mûrier avait à peine appuyé sur la mine. 142 degrés, 38 minutes 48, point 34 secondes est. 11 degrés, 23 minutes, 40 points, 43 secondes, nord. Il fronça les sourcils, sortit un petit papier et compara avec les coordonnées retrouvées chez Crémieux. 11 degrés, 23 minutes, 40 points, 40 secondes, nord. 142 degrés, 38 minutes, 48 points, 38 secondes, est. Elles étaient presque identiques, mais les derniers chiffres étaient différents. Charcot ne comprenait pas. Il entra les données sur le système GPS de son téléphone et tomba encore une fois sur la fosse des Mariannes. Bertrand Cazut entra dans la chambre. « Il est presque 14h. Je vais aller acheter des sandwichs. Qu'est-ce que tu veux? Ton maillot ?» Cazut suivit le regard de Charcot et fixa lui aussi la carte de la capitale avec attention, remarquant les coordonnées inscrites en bas. Charcot lui montra l'écran de son portable. « Merde! C'est incompréhensible !» fit Cazut.
« Une vraie colle !»
Bertrand se gratta le crâne et observa de nouveau le plan de Paris.
« Ça ne sert à rien. J'ai déjà regardé de près !» fit Charcot. « Hormis ces coordonnées GPS, il n'y a rien à trouver. Pas de marque de crayon, aucun signe qui indique un endroit particulier. On ne sait pas où il va larguer ses puces.
Tu penses que Mûrier va frapper sur la capitale ?
Cette carte est le seul truc neuf dans ce bordel. Elle n'est pas là pour décorer. Mûrier s'endort chaque soir avec le plan de Paris en face de lui. Peut-être qu'il imagine déjà le chaos qu'il s'apprête à semer avec ses puces. Si on s'en tient au plan, ça élimine les aéroports.
Qu'est-ce qu'il va viser alors ? Une gare ?
Il va viser ce que Crémieux lui a dit de viser, et donc ce que Josh Ronald Savage veut depuis le début. Ça pourrait être le Louvre, un bateau-mouche, un bus touristique, pourquoi pas les galeries Lafayette ? Il y a des quartiers bondés de touristes chinois qui pourraient ramener la peste sur leur territoire. Les cibles peuvent être tellement nombreuses, et on peut mettre toutes les forces de police ou les militaires qu'on veut, s'il veut frapper, il frappera. Le temps passe, Bertrand. Et nous, on en est à feuilleter les cahiers délirants de ce dégénéré pour espérer trouver la faille.
Il désigna le couloir.
J'ai entendu Nicolas discuter au téléphone avec la Mordier. Des nouvelles de Savage ?
Pas encore logé. Des requêtes partent dans tous les sens. Centre des impôts, sécurité sociale, Interpol, services secrets de différents pays. Les ordres viennent de l'intérieur. J'aime autant te dire que ça carbure. Tout le monde est sous pression.
Bertrand s'empara d'une pile de livres. Au moment de sortir de la pièce, il s'arrêta et fixa Charcot dans les yeux.
Les empreintes digitales.
Quoi, les empreintes digitales ?
Cazut hocha le menton vers le plan.
Crémieux est venu entre ces murs. Il a peut-être pointé sur la carte l'endroit où Mûrier devait frapper. Auquel cas, des traces papillaires seront imprimées sur le papier.
Le regard de Charcot brilla.
Je vais emmener ça tout de suite au labo. Bien vu.
Cazut sortit. Franck resta immobile devant l'écran de son téléphone et ses étranges coordonnées GPS. Avec son logiciel de navigation, il planta une punaise virtuelle à l'endroit indiqué, puis entra les autres coordonnées, celles de Crémieux. Planta une autre punaise virtuelle. Son logiciel indiqua alors que les deux points étaient distants d'à peine 3 kilomètres. 3 kilomètres au beau milieu de l'océan,
Qu'est-ce que cela signifiait? Ces coordonnées notées par Mûrier permettaient-elles aussi d'accéder à la chambre noire? Que représentait-elle vraiment, cette fichue chambre? Était-elle bien réelle ou juste une chimère? Un lieu maudit qui n'existait pas? Soudain, Franck Charcot fut frappé par une idée, et même une évidence.
Bien sûr, bordel.
Il s'en voulait de ne pas avoir tilté plus tôt. Il s'agissait peut-être effectivement de coordonnées GPS, mais pas pour naviguer dans le monde physique. Les propos de Guillaume Toméo, leur crack en informatique, se mirent à résonner dans sa tête. Quiconque le souhaite réellement peut embarquer gratos dans le sous-marin et descendre dans les profondeurs pour y rencontrer ces monstres de l'ombre qu'on ne voit jamais à la surface. Le Darknet regorgeait de monstres des abysses, tous plus ignobles les uns que les autres. Le Darknet était les abysses. Les adresses d'accès aux sites fantômes ne sont qu'une mélasse de chiffres et de lettres, avait ajouté l'informaticien. Charcot se sentit soudain électrisé, fouetté par l'adrénaline. Il prit le panneau de Liège, comprenant le plan, et sortit de la pièce au pas de course, persuadé qu'il était que ses coordonnées GPS mises bout à bout constituaient une adresse fantôme. Une ouverture vers les plus profonds abysses du Darknet.